Ça va pratiquement un an et demi que les acteurs politiques se rencontrent régulièrement pour pouvoir discuter, mais jusqu'à présent, il n'est rien ressorti de positif. Donc moi, je peux considérer que la crise est beaucoup plus politique que militaire. Parce qu'à un moment donné, on a vu quand même les militaires qui ont fait le geste qu'il fallait pour pouvoir aplanir la crise. Et je me souviens même que ce jour-là, les militaires ont dit que la balle était dans le camp des politiques. Donc je crois qu'à ce niveau-là, il s'agirait pour les hommes politiques d'être suffisamment lucides, de mettre en avant les intérêts de la Côte d'Ivoire pour pouvoir s'entendre.
En ce moment, quels seraient les intérêts politiques en jeu? Peut-être les prochaines élections?
À mon avis, c'est les prochaines élections parce que malgré le fait qu'il n'y ait pas d'éclaircie dans le siège politique, les différents partis sont déjà en campagne. Ils sont tous en campagne. Ils veulent rencontrer la population, ils discutent. Tout ça en prélude aux élections présidentielles de l'an 2005.
Donc les partis politiques préfèrent maintenir le statu quo, c'est ça que vous voulez dire, jusqu'aux prochaines élections?
Je ne sais pas trop quels sont les calculs, mais quand on regarde chacun agir, on sent qu'il y a des calculs derrière, des calculs qui vont dans le sens des intérêts de leur parti.
Mais au fait, les rebelles accusent sans cesse le président Laurent Gbagbo d'être l'ennemi numéro un des accords de Marcoussi. Qu'est-ce qui gênerait le président Gbagbo dans l'application des accords de Marcoussi?
Le problème, c'est que le président Gbagbo, lui, l'accuse. La force nouvelle n'est pas aussi appliquée, Marcoussi. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes en face de deux dilemmes. Au niveau du camp présidentiel, on demande aux rebelles de désarmer. Du côté des rebelles, ils disent pas de désarmement sans réforme politique, voilà, sans application de Marcoussi. Donc voilà les deux camps qu'on trouve aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Je crois que, en toute chose, c'est la communication qui fait défaut. Si on peut réunir à la même table sur le Guillaume et le bloc présidentiel, je crois qu'on aurait fait un grand pas vers la paix.
Donc la sortie de crise dans votre pays, la Côte d'Ivoire, va se jouer sur la table du dialogue.
Sur la table du dialogue. Parce que au stade où nous en sommes, la guerre ne peut rien régler du tout. La preuve en est qu'il y a eu des morts gratuites, mais on n'est pas encore arrivé à quoi que ce soit. Et puis, même quand on fait la guerre, on finit toujours par s'asseoir pour discuter. Autant discuter dès maintenant. Je crois que ce serait la solution.
Mais et pourtant, il y a eu ces derniers jours une rencontre entre le président Gbagbo et l'opposition. Une rencontre qui n'a pas du tout abouti. Quelles sont les raisons de cet échec?
C'est parce qu'il y a une radicalisation des camps. Et c'est ce qui a fait que nous avons abouti à rien du tout. D'un côté, vous avez le bloc des marcosistes appelé G7, qui demande à Gbagbo d'appliquer marcosistes selon leur vision. Et puis vous avez le président Gbagbo qui dit qu'il a appliqué marcosistes, mais c'est par la mauvaise volonté, laisse un nombre d'acteurs politiques, que bon, nous en sommes là. Chacun se rejette la faute. Je crois que si chacun ne se remet pas en question véritablement et fait des concessions, on n'aboutira à rien.
Est-ce que la Côte d'Ivoire ne donne pas finalement l'impression de fatiguer tout le monde, l'ONU, la CEDEAO et l'Union africaine?
Ce sentiment, quelquefois, est partagé par certains Ivoiriens. Moi, je pense que la Côte d'Ivoire faisant partie de l'ONU, mais je pense que les gens ne devaient pas baisser les bras par rapport à la recherche de solutions dans cette crise. C'est vrai qu'on a un peu le sentiment que la Côte d'Ivoire refuse d'entendre raison. Mais quand on recherche la paix, c'est vraiment un long chemin qu'il faut emprunter et ne pas surtout baisser les bras.